Bienvenue tout le monde sur la POC édition spéciale pour les patrons, émission qui, dans le fond, va être disponible pour nos patrons immédiatement après l'enregistrement, mais qui, éventuellement, à un moment donné, de façon plus intemporelle, deviendra disponible pour les gens qui ne sont pas nos patrons. D'ailleurs, si vous voulez devenir nos patrons, pouvoir avoir ces épisodes-là dès qu'on les conçoit, qu'on les réalise, ben, venez nous rejoindre sur la communauté patreon.com/lapoc et à partir de 1$ par mois, vous pouvez avoir accès à ces épisodes-là. On a bien des projets, on a bien des sujets qu'on veut aborder qui ont un aspect plus intemporel. Même un projet de, je sais que les boys, là, ça grince un petit peu, mais moi j'y tiens, là, je pense qu'on va le faire, là. On veut probablement faire des critiques de films de hockey, mais on vous en reparlera, OK? Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, mon acolyte presque de toujours, j'ai nommé Sylvain Rioux. Salut Sylvain.
Hey, salut, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ben oui, ça va, numéro un.
On se fait un épisode court et touchant. On va essayer d'en enregistrer quelques-uns dans la même soirée pour pouvoir avoir du matériel pour nos patrons. Et le premier sujet, on a demandé à nos patrons quel sujet vous voulez qu'on discute, qui sont plus intemporels. Et le premier, puis en fait, je pense que c'est le sujet qui nous a été le plus demandé, c'est de parler des pires transactions dans l'histoire du Canadien de Montréal. Puis là, je pense qu'en partant, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, on va faire tout de suite, en commençant, on va faire un disclaimer, là. On ne parlera pas de l'échange de Patrick Roy. Parce que, un, c'est de loin, je pense, la pire transaction dans l'histoire du Canadien de Montréal. Je sais que c'est ça le thème, mais c'est aussi probablement la transaction qui a fait le couler le plus d'encre de l'histoire du Canadien. Et on en ressent encore les impacts et on ressent cette histoire-là année après année. Quand il y a des déboires du Canadien de Montréal, cette transaction-là a tellement marqué l'histoire du Canadien que même si on est hyper intéressant, toi et moi, Sylvain, on n'a pas grand-chose de plus à rajouter au débat.
Oui, puis mais c'est exactement ça. C'est plus parce qu'on en a parlé à outrance. Mais tu sais, moi, j'ai une belle liste d'autres transactions assez dégueulasses aussi. Là. Fait que tu sais, j'aime mieux qu'on se concentre sur ceux qu'on parle peut-être moins, qu'on a peut-être oublié, que de parler de la plus obvious, celle de Patrick Roy.
Oui. Puis l'autre affaire qu'on ne parlera pas, c'est la transaction Subban-Weber. Parce que autant vous le savez, si vous nous écoutez sur la POC, si vous êtes des patrons, c'est que vous le savez, là, vous nous écoutez, c'est une transaction qu'on a énormément décriée sur notre émission parce que c'est la transaction qui a marqué et qui marquera, je pense, à jamais le règne de Marc Bergevin, qui est toujours actif en tant que directeur général du Canadien de Montréal au moment où est-ce qu'on enregistre. Qui sait? Hein, au moment où est-ce que vous écoutez, si ce sera encore le cas. Mais c'est sûr et certain que c'est la transaction la plus marquante. Par contre, même si moi, personnellement, je considère que Weber est beaucoup moins performant, c'était pas une bonne transaction pour le Canadien a quand même reçu quelque chose pour. C'est pas un vol. Il y a bien des gens qui disent que le Canadien a l'avantage et c'est bien correct de le penser. Juste le fait qu'il y ait des gens qui pensent que c'est pas un one-way deal, fait en sorte que, tant qu'à moi, ça n'a pas sa place là-dedans. Ça n'a pas sa place dans les pires transactions de l'histoire du Canadien de Montréal. Tu en penses quoi?
Ah, je suis tout à fait en accord. Là, quand on va passer au travers de la liste que moi j'ai, c'est pas dans la même ligue. Là. On n'a pas échangé Subban contre une douzaine de bâtons. Là, on a échangé contre un gars qui va donner du bon hockey. 4-5 saisons à partir de la saison de cette transaction-là.
Je pense qu'on peut y aller. Nos pires transactions de l'histoire du Canadien de Montréal. J'ai le goût de te lancer, Sylvain. Vas-y avec ton premier choix.
OK. C'est dur d'en choisir une, là. OK, mais tu sais, je sais que techniquement, on va avoir pas mal toutes les mêmes parce que moi, j'irais avec la transaction qui a envoyé John Leclerc aux Flyers de Philadelphie.
Oh, OK.
Donc, John Leclerc, Éric Desjardins et Gilbert Dionne aux Flyers de Philadelphie contre Mark Recchi et un troisième choix en 1995. Si on se rappelle bien, la pièce maîtresse de cette transaction-là, c'était Éric Desjardins, qui était un défenseur très établi. Puis le Canadien voulait aller se chercher un marqueur en Mark Recchi. Jusque-là, ça va bien. Personne n'avait prévu que John LeClair deviendrait un marqueur de 50 buts à multiples saisons.
Il l'a fait trois fois hein, par la suite. C'est fou.
Ben, c'est ça. T'sais, c'est pas rien. Puis il a été partie intégrante des succès des Flyers fin des années 90 et qui a formé avec Eric Lindros et je cherche le nom de l'autre gros qui est avec eux autres. En tout cas, c'était la Legion of Doom.
Ouais, je vais te chercher ça.
Il y a trois gros. Randberg.
Randberg, c'est ça?
Je pense que c'était. En tout cas, ça ressemble à. C'est dans ces années-là. Là. Bref, t'sais, c'était la Legion of Doom. C'est la ligne qui faisait peur à tout le monde parce que c'était trois gros bonhommes, quand même Renberg, assez rapides.
C'est ça, tu l'avais.
OK, c'est ça. Donc, c'était trois bonhommes quand même assez rapides, quand même gros pour le hockey de ce temps-là. Ça faisait mal jouer contre ces trois gars-là. Puis, il te faisait mal au niveau du pointage, je aussi.
Oui, oui, c'est ça, les points dans tout leur sens. Ce qui est drôle,
Mark
hein?
Mark Recchi a été obtenu... Il était pas mal en fin de carrière. T'sais. Il a donné quand même du bon hockey, là, mais techniquement, si tu regardes ça froidement par la suite, tu n'aurais même pas fait John LeClair pour Mark Recchi one-on-one.
Non, c'est ça. Puis là, tu en donnes deux, t'sais, des très bons.
Tu as donné Éric Desjardins là, et Gilbert Dionne. Bon, Gilbert Dionne, il est mort de sa belle mort. Mais tu as donné deux Christy de gros morceaux. Là. Ouais. Un défenseur numéro un. Un ailier de premier trio pour aller chercher un ailier de premier trio en fin de carrière.
Oui. Non, c'est effectivement, c'est une transaction très marquante. Je partais pour te dire un petit fun fact, là, Legend of Doom, là, c'est le joueur de centre de l'organisation des Flyers, Jim Montgomery, qui à l'époque avait comme sorti dans un scrum avec des médias qui avaient sorti ce call-là, qui avait cette façon de les appeler là. Jim Montgomery, qui est devenu aujourd'hui le coach des Stars de Dallas. Fait que il est pas mort dans l'histoire, lui-là. Fait que c'est ça.
Non, puis tu sais, ça a tellement marqué, cette ligne-là a tellement marqué l'imaginaire que si on retourne dans les premières saisons des Simpsons, tu sais, le hockey, c'est pas un sport majeur aux États-Unis, là. Ben, dans le Halloween Special, je me rappelle plus si c'est 96 ou 97, il y a la Legion of Doom des Flyers.
Ah oui, c'est vrai, hein?
C'est pour dire à quel point... Tu sais, le hockey étant le... On aime dire le troisième sport en importance, mais on va dire le quatrième ou bien le cinquième. Ben non, techniquement, c'est le quatrième, mais bien souvent, c'est le cinquième puis le sixième.
Mm-hmm.
Que trois individus comme ça se ramassent dans l'Halloween Special des Simpsons, c'est parce que ça marquait l'imaginaire.
Ouais. Ah non, vraiment. Moi, le premier que j'ai le goût de te lancer, c'est un échange qui a marqué parce que, oui, le joueur reçu est une légende du hockey, mais au moment de le recevoir, c'était fait. C'était derrière lui le plus gros de son hockey. Je dirais la transaction Chris Chelios contre Denis Savard, qui a été un excellent joueur, qui a eu comme 10 saisons à plus d'un point par match, mais contre le jeune Chris Chelios, qui était déjà un défenseur. Je pense qu'il avait déjà gagné un Norris avec le Canadien, qui est allé en gagner deux autres, et surtout...
Il venait d'en gagner un, ouais.
Ouais, et que... Surtout,
ça me rappelle un autre défenseur, mais ça, c'est une autre histoire.
Et Chris Chelios, qui a été un leader pendant plusieurs années avec les Blackhawks de Chicago, avec aussi les Red Wings de Détroit, qui est allé gagner des Coupes Stanley, qui est allé gagner des Norris, qui est devenu, pour moi, là, qui est devenu, avec Zdeno Chara, qui est devenu l'emblème du joueur qui en finit plus de finir de jouer au hockey.
Ouais, tout à fait.
Chris Chelios a joué, je pense, il y a 43 ans, à faire le même. Ça a juste pas de bon sens, là.
Regarde comme faut, mais si ma mémoire est bonne, je pense que c'était 46 ou 46.
Ouais,
mais
c'est ça. Je
vraiment tard. T'sais, pour un gars, tu sais, puis on n'aurait jamais gagé ça parce que jusqu'à cet échange-là, tu sais, s'il y en avait un qui allait fêter d'un bord, c'était bien lui, là. Tu sais, mm-hmm. Bob Bissonnette en a fait une chanson calvaire, là.
Ouais.
Et, je peux pas entendre le nom de Chris Chilios sans
dans ma tête, le riff de la toune.
Chanter Chris Chilios. Je peux pas.
C'est mon héros!
Ouais, c'est ça.
Hey, il a joué avec les Thrashers d'Atlanta en 2009-2010. Écoute, je cherche encore l'âge.
Il était là pour la Coupe Stanley de 86. Où il a-tu commencé après? Bref, tu sais.
À l'âge de 48 ans.
48 ans.
Puis tu sais, là, je disais Zeno Chara, mais c'est même plus dans la game, là. C'est
48 ans, je pense qu'il y a à peu près juste Gordy Howe qui a joué plus longtemps, qui a joué jusqu'à un âge plus vénérable que ça. Gordy a joué jusqu'à 52? 50. Ouais, c'est ça, le début mi-cinquantaine, là. Tu sais, bon, tu vas me dire que c'est plus le même hockey qu'aujourd'hui, là. C'est sûr, là, mais.
Son dernier match à l'âge de 69 ans avec les Vipers de Détroit de LIH. Écoute, fouille-moi, c'était quoi, là, mais vraiment.
Ah, OK, ouais.
Ouais, il a fait un match pour jouer avec ses deux fils.
C'est ouais. Ouais, ben, c'est ouais, ben, dans le fond, il a. Il a revêtu l'uniforme, puis il a, je me rappelle même pas s'il a fait un, ben, il faut qu'il ait fait une présence, là, mais il a fait une présence genre de 8 secondes, puis juste pour dire, puis ça faisait aussi que c'était le premier qui jouait dans 5 ou 6 décennies consécutives.
Ouais, une affaire de même.
Ouais, parce qu'il a joué dans les années 50, 60, 70, 80. Là, ça y donnait les années 90 aussi, me semble, ou puis 2000. Bref, il a joué vraiment longtemps. T'sais, on verra plus jamais ça.
Non, c'est ça.
Parce qu'au rythme, est-ce que la LNH va, mais pour revenir à Chris Chilios, ben, tu t'en rappelles, sûrement que nos auditeurs vont s'en rappeler. Moi, c'est le parallèle que j'ai toujours fait avec l'échange de Piqué Souban, qu'on échange un défenseur dans son prime pour aller chercher un gars que probablement que ses meilleures années sont derrière lui. Pas qu'il n'y a pas de valeur, mais tu sais, ses meilleures années sont derrière lui.
Mm-hmm.
N'empêche que avec Denis Savard, oui, le Canadien a gagné une Coupe Stanley, mais rappelez-vous que Denis Savard n'a pas joué la finale. Fait, est-ce qu'il a joué un si grand rôle non, que ça? Au niveau du leadership, sûrement, là, parce que je sais qu'il a été très impliqué avec Jacques Demers. On l'a vu derrière le banc puis tout, là. Mais ça reste que comme pour citer Bob Bissonnette encore, ça n'a pas été le meilleur trade de Serge Savard.
Non, effectivement.
C'est ça.
Prochaine transaction?
Fait que là, c'est moi qui te relance.
Ah oui, vas-y.
Ah ouais, donc, ah, j'en ai une couple de belles, là. Pierre Turgeon, Rory Fitzpatrick, Craig Conroy qui s'en vont aux Blues de Saint-Louis contre Shane Corson, Murray Barron et un choix de 5e ronde en 1997 qui va devenir Gennady Razin.
On avait trop de bons joueurs de centre. Ouais, vous rappelez-vous ça, cette époque-là où on avait trop de bons joueurs de centre? Ouais, c'est ça. Fallait faire de la place.
Ouais, ça, le backbone de cette histoire-là, si jamais vous avez la chance, je sais que j'en ai déjà parlé à toi, JB, je me rappelle pas, j'en avais parlé sur le podcast. Il y a un vieux livre de Mathias Brunet, Avion, Hôtel et Glorieux, qui est plus en vente, mais qu'on peut trouver dans certaines bibliothèques, dont je sais qu'ici à la bibliothèque de Terrebonne, ils l'ont. C'est là que je l'avais pris. Puis, lui, dans le fond, il a documenté toute la saison où est-ce que les journalistes voyaient. C'était une des dernières saisons où est-ce que les journalistes voyageaient encore.
Dans l'avion, ouais.
Dans l'avion, puis tu le quittes. Puis ça a été la fameuse saison où est-ce que tout est arrivé, là. Patrick Roy, Lamar de Pogny, Mario Tremblay, tout est arrivé dans cette saison-là. C'est un must à lire. Ça se lit vraiment comme un roman, là. Tu sais, du début jusqu'à la fin, là. C'était plein de rebondissements. Puis cet échange-là est directement... en lien avec Mario Tremblay, c'est venu en fait, puis c'est raconté dans ce livre-là. Lors de la première visite du Canadien au Colorado, Mario Tremblay a appris que il y a certains de ses vétérans qui avaient été invités le soir d'avant à aller souper chez Patrick Roy, dont Pierre Turgeon et Vincent Danfousse. Mario Tremblay apprend ça. Il est en beau fusil. Il décide de mettre un couvre-feu ce soir-là. Il n'y a personne qui sort. On fait de la vidéo.
Mm-hmm.
Il y a eu une chicane, ça a l'air pas loin de se taper sa gueule entre lui et Pierre Turgeon. Et ça a amené à cet échange-là.
C'est fou comment est-ce que ça part de... Souvent, c'est des trucs raide, qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de rapport avec le hockey en tant que tel, là, de ce qui se passe sur la glace, mais deux hommes ne s'entendent plus, puis voilà, c'est ça.
Tu sais, rappelez-vous qu'à cette époque-là, OK, les joueurs de centre du Canadien sont Pierre Turgeon, qui est dans les bonnes années de sa carrière. Tu sais, il était pas à son pire.
Il a 27 ans, là.
C'est ça. Tu sais, il sortait encore des bonnes années. Pierre Turgeon, Vincent Danfousse et Sakou Koivu.
Il venait d'avoir 96 points, Pierre Turgeon. Ouais.
C'est ça. Sakou Koivu vient d'arriver. Ben, pour eux, Sakou Koivu passe en avant de Pierre Turgeon.
Mm.
Pour moi, Sakou Koivu est en arrière de ces deux-là. Easy, any day.
Ouais.
Et on n'embarquera pas sur le cas de Sakou Koivu parce que
on n'est pas fini, puis c'est pas le sujet de l'émission.
C'est ça. C'est tout l'amour que j'ai pour celui que j'appelle affectueusement Sakoui Koivulve.
C'est ta préférée.
Oui, c'est ma préférée. Donc, ça, c'était mon échange à moi. Tu sais, puis pour aller chercher justement un Shane Corson, que ses meilleures années étaient derrière lui, clairement. Murray Barron, on n'en parle même pas. Tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été un échange vraiment horrible. Vas-y donc, mon...
Oui, OK. Ben, moi, je vais parler de l'anecdote de Jim Montgomery. C'est sa journée aujourd'hui, on en parle. Jim Montgomery a été échangé dans l'une des pires transactions de l'histoire du Canadien de Montréal. Es-tu capable de me dire contre qui?
Non, je ne l'ai même pas dans ma liste, là.
Ah! Il a été échangé contre Guy Carbonneau.
Ah oui, c'est vrai.
Transaction qui est survenue en 1994, durant l'été. On est au lendemain de la conquête de la Coupe Stanley. En fait, tout n'est pas vraiment au beau fixe hein, entre le capitaine du Canadien de Montréal et tout ce qui est...
En fait, c'est pas au lendemain de la
conquête. C'est la saison d'après. Hein,
c'est la saison d'après. Montréal se fait sortir en première ronde par Boston. Genre.
Oui, c'est ça. Oui, 94.
Encore, ça date de quelques jours. Là.
Et les frictions sont vraiment nombreuses entre les médias, entre l'organisation et le capitaine. Guy Carbonneau, là, ça passe plus. Et là, il y a une des histoires les plus... Si vous avez l'occasion, je me souviens pas c'est dans quel épisode, mais Tellement Hockey, qui est une production de Radio-Canada, avec Martin Leclerc, avec deux autres animateurs de sport de Radio-Canada qui font un podcast de hockey, bien sûr, ça s'appelle Tellement Hockey. Et il relate, parce que Martin Leclerc travaillait à cette époque-là au Journal de Montréal. Et il y a le photographe Normand Pichette, qui travaille pour le Journal de Montréal, qui y a un tournoi de golf dans lequel il y a des joueurs du Canadien de Montréal. Et tout au long de la journée, Normand Pichette croise Guy Carbonneau, puis ils s'entendent super bien, les deux gars, stackin'. Hey, t'as joué bien, t'as bien mal joué, blablabla. Puis là, à un moment donné, Normand Pichette se dit, hey, il faudrait quand même que je prenne des photos. Hein. Fait que je vais sortir mon appareil, puis poigner au vif un peu les gens. Guy Carbonneau voit que Normand a sorti son appareil photo, décide de le niaiser, fait un finger, qui est clairement pas un « Hey, je te déteste, mon sacripant », mais un « Hey, tiens ta photo
ouais, ben,
de merde ».
Si vous retrouvez cette photo-là, vous allez voir que Guy Carbonneau a le gros sourire. Là.
Ben oui, et ça n'a absolument pas passé dans l'opinion publique. Au moment où est-ce que... parce que Monsieur Pichette prend la photo. Lui, il a pas le choix. Il revient pour... Parce qu'il faut les développer, ces photos-là, à l'époque. Là. C'est encore des... C'est encore
back des in films. The day.
Back in the days. Et là, bien entendu, le chef de pupitre voit la photo. Tu peux pas avoir une telle photo et ne pas la publier. Et semble-t-il qu'à l'interne, au Journal de Montréal, il y a eu énormément de négociations, de pour et de contre, de sortir la photo, et c'est l'employeur, parce que les journalistes le savaient. Si on sort ça, ça sort Guy Carbonneau de Montréal. Dans l'opinion publique, ça
la sacro-sainte image.
La sacro-sainte image. Le Canadien va devoir le tasser de Montréal, et c'est la direction du Journal de Montréal qui a décidé, qui a mis son pied à terre, qui a utilisé son veto. On diffuse la fameuse photo de Guy Carbonneau. Après ça, Carbonneau va aller faire des saisons très intéressante ailleurs en tant que centre offensif, en fait défensif, va aller gagner des prix remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue, remporter une Coupe Stanley avec les Stars de Dallas, et le Canadien, eux, bien entendu, ne gagnera plus jamais la Coupe Stanley. En retour, Jim Montgomery ne jouera jamais pour le Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, one way, là, c'est ça.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Je pense que l'anecdote est plus importante que la transaction, même si c'est un one way, là. Mais
ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça rentre pas dans le, tu sais, ça rentre pas nécessairement dans le gros vol, parce qu'on parle quand même d'un gars de troisième ligne. Mais tu sais, pour n'importe quel fan du Canadien à cette époque-là, Guy Carbonneau était beaucoup plus qu'un centre de troisième ligne. C'était le meilleur centre de troisième ligne de
la ligue,
de la LNH. Tu sais, à preuve, là, ce gars-là rentre au Hall of Fame cette année.
Ouais. T'en as-tu une petite dernière?
Ouais, ben j'en avais une couple d'autres, mais je vais y aller avec une qui est plus récente.
OK.
Ben, récente, qui date quand même de presque 20 ans. Mike Ribeiro.
Ouais, je l'avais d'en face. J'étais sûr que c'était celle-là.
Échangé contre Yanni Ninima. Et tout ça, bon là, évidemment, il faut que je reparle encore de Sakou Koivu. Il y a comme plein d'histoires qui sont sorties. Mm-hmm. Tu sais, Mike Ribeiro, ces années-là, il y avait des belles saisons. Il faisait partie des trois amigos, lui, Dagenais et Ribeiro, là, qui était pas mal sur le party, puis qui aimait bien le nightlife de Montréal.
Ouais, il connaissait ça.
C'est ça. Mais ça fournissait sa glace. Tu sais. Puis il y a un certain capitaine de cette époque-là que, pas content de se faire damer le pion, acceptait pas de devenir un deuxième joueur de centre. S'est plaint à son coach, et à son GM, qui l'ont envoyé chier. Mais ce capitaine-là s'était quand même forgé une belle relation avec le propriétaire de l'époque, M. Gillette, qui l'avait accompagné à travers sa maladie et tout et tout. Là, je suis sûr que ça n'est pas peut-être de quel capitaine que je parle en ce moment. Là.
Non, c'est ça. C'est subtil. Il faut décoder. Là.
C'est ça. Puis finalement, il est monté au bureau de Gillette. Il a pleuré. Il a déballé son sac. Puis le lendemain, Mike Ribeiro était parti.
Suite à cette transaction-là. En fait, avant. Venez de connaître la question de...
Oui? Oui, go.
OK. Mike Ribeiro venait d'avoir 65 points en 81 matchs en 2003-2004. L'année suivante, lockout. Après ça, à Montréal, 51 points en 79 matchs en saison 2005-2006. Transaction. Et par la suite, Mike Ribeiro n'a jamais fait moins, à part à sa dernière saison, que 47 points.
Yanni Ninima, il a fait quoi, lui? Yanni Ninima, il a fait quoi encore?
Écoute, je l'ai même pas sorti. Je pense que...
Paul.
Trois matchs où on a fait la même.
C'était une affaire ridicule. Là. Il suivait plus. Il essayait d'aller finir sa carrière en Europe, puis il suivait même pas en Europe. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on voit le genre. Là.
Il a joué 41 parties, 3 passes, moins 13 avec le Canadien de Montréal.
Ah oui, mais ceux qui étaient là à cette époque-là, là, vous en rappelez de Yanni Ninima, comment qu'on l'a haï. Puis tu sais, c'était la belle époque de 110%. Là.
Ouais.
Puis Ninima se faisait planter à tous les soirs. C'était horrible. C'était vraiment horrible.
Voilà nos transactions de l'histoire du Canadien de Montréal. C'était pas si pire. Hein? Sans parler de les deux défenseurs là, récemment, là, puis... celle du gardien de but qui a fait des clins d'œil. On n'a pas parlé d'eux autres, puis ça a quand même bien été.
Oui, tout à fait. Puis, hein? Je suis sûr que c'était plus intéressant que de se faire ressasser les deux mêmes transactions tout le temps. Yes. On en a assez parlé, là.
Voilà. Merci à nos patrons, patreon.com/ la POC, si vous voulez ben, nous aider, comme vous, comme les patrons le font. Pour en tout cas, vous comprenez le principe, là. Venez à partir de 1$, vous pouvez avoir accès aux shows spéciaux. On vous dit à la prochaine pour un autre épisode de la POC. Bye-bye!
Salut les patrons!